Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. La CENI proroge de 7 jours à dater de demain dimanche les opérations de dépôt et de traitement des candidatures pour la députation nationale. Les détails dans ce journal. La chambre de première instance 2 de la CPI s'est réunie hier vendredi à La Haye aux Pays-Bas pour évaluer la responsabilité de Bosco Ntaganda aux fins de ses réparations de 31 millions de dollars américains en faveur des victimes. Notre invité, c'est le coordonnateur et défenseur des droits de l'homme à Walikale au Nord Kivu. Maître Obedi Kamala affirme que la protection des libertés fondamentales s'est détériorée ces jours-ci dans ce territoire en cette période. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Massirika, mise en onde d'Alain Goy. La CENI proroge de 7 jours à dater de demain dimanche les opérations de dépôt et de traitement des candidatures pour la députation nationale. Dans un communiqué rendu public ce samedi à Kinshasa à l'intention des partis et regroupements politiques, cette institution d'appui à la démocratie précise que cette décision a été prise après le constat selon lequel il y a certains bureaux de traitement et de traitement des dossiers qui n'ont pas enregistré de dossier de candidature jusqu'à l'heure de la fermeture ce samedi à 16h30. La CENI dit avoir par ailleurs constaté que certaines facilités n'ont pas été conclues, notamment les formulaires C5, C6, C7 et C8 qui peuvent désormais être scannés et envoyés par voie électronique aux mandataires des candidats à la députation nationale au niveau des circonscriptions électorales pour ainsi permettre le dépôt des dossiers. Titres académiques sont soumis à la certification conforme à défaut d'une attestation justifiant l'expérience professionnelle d'au moins 5 ans. Avant la publication du communiqué de la CENI, comment se sont déroulées les opérations de dépôt de candidatures aux différents bureaux au pays? À Lubumbashi, par exemple, jusqu'à 16h30, les noms continuaient à être enregistrés pour les dépôts des dossiers. Depuis ce matin, en effet, les mandataires des partis et regroupements politiques sont venus nombreux déposer leurs dossiers. C'est ce que nous explique à Lubumbashi Jean-Gandou Kabongo.
C'est une véritable course à la montre que se livrent les candidats députés nationaux, tant des partis et regroupements politiques que les indépendants, qui n'avaient pas encore déposé leur dossier. À quelques heures de la fin des réceptions de candidature, de nombreux mandataires, dossiers à la main, franchissent les portes du BRTC. Pourquoi avoir attendu les derniers jours pour se manifester? Chantal Bitota, du parti politique Bâtisseur du genre pour le progrès social BGPS, répond.
Il fallait être sûr de ce qu'on doit déposer. On venait vérifier pour voir s'il n'y a pas des erreurs, pour qu'on ne puisse pas refaire. Si nous venons le dernier jour, c'est parce que tout est prêt et bien fait.
À ce stade, les dossiers qui ne remplissent pas les conditions sont retournés à leur détenteur pour qu'ils les complètent. D'après une source proche de la CENI, jusque ce samedi avant midi, c'est près d'une dizaine de dossiers qui sont déjà déposés. Parmi eux, ceux des regroupements des partis politiques et des indépendants. Certaines autres formations politiques attendent toujours que les listes envoyées à Kinshasa auprès de leurs autorités morales leur soient retournées pour qu'ils les déposent. D'autres n'ont pas encore reçu les preuves des paiements, ce qui justifie le retard indiqué. Nous apprenons que dans d'autres regroupements politiques, les négociations continuent pour la confection des listes. Déjà, il y en a qui demandent à ceux qui ne seront pas retenus de prendre leur mal en patience. Ils doivent attendre pour les uns la députation provinciale, pour les autres les élections locales. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et à Goma, au Nord Kivu, un engouement a été observé ce samedi. Quelques partis et regroupements politiques ont mobilisé donc aujourd'hui leurs membres et sympathisants pour les accompagner au dépôt de leur dossier après une caravane motorisée. À 16h30, les dossiers continuaient à être enregistrés et l'opération s'est poursuivie ce soir. Pendant ces temps à Beni, les portes du BRTC ont bel et bien fermé leurs portes avant l'annonce à Kinshasa de la CENI, mais les dossiers ont continué à être reçus à l'intérieur pour ceux qui étaient venus avant l'heure de la fermeture. Durant la journée d'aujourd'hui, les sympathisants des membres des partis politiques ont battu le pavé depuis le matin pour accompagner leurs candidats. Tour à tour, on y a vu les partis politiques politique RCD-KML de Moussa Nyamouissi, l'AFDC de Bati Lukwebo ou alors l'ACLP de Juliette Mouhole. Comme la plupart des candidats ont attendu le dernier jour pour déposer leur dossier. C'est ce que nous explique le mandataire du RCD-KML, Vincent Mouberto, est au micro de Martial Papimoukeba.
Si nous avons attendu jusqu'à la dernière date pour déposer nos candidatures, c'est parce que, comme vous le savez, nous nous présentons comme parti politique, mais comme un regroupement. Et cela a fallu certains réglages entre d'abord le parti membre du regroupement, mais aussi chercher à sélectionner aussi des bons candidats, mais aussi appuyés par des bons suppléants qui doivent nous garantir la chance maximum d'avoir un siège à ville de Beni. Donc nous nous sommes donné le temps, c'était juste pour préparer un travail qui sera accepté par tous les membres et qui répondra aussi par exemple à toutes les exigences de la loi électorale. Donc voilà un peu ce qui a fait que nous puissions arriver à travailler jusqu'à ce moment.
La sécurisation par la MONUSCO de tous les candidats président de la République jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de l'élection, c'est la demande contenue dans un communiqué daté d'hier et signé à Kinshasa par trois leaders de l'opposition, à savoir Matata Ponyo, Moïse Katumbi-Tchapwe et Délice Sanga. C'est en réaction à l'assassinat le 13 juillet à Kinshasa de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et Voies de Communication, député national et porte-parole du parti Ensemble pour la République. Les trois leaders politiques de l'opposition condamnent cet assassinat odieux et exigent une enquête judiciaire réellement indépendante pour élucider les circonstances de ce drame. Toujours à Kinshasa, Franck Diongo a quitté la prison militaire d'Ndolo cet après-midi. Il bénéficie ainsi d'une liberté provisoire. Selon son parti politique, Mouvement Lumumbiste Progressiste, l'auditoire militaire a estimé qu'il n'y avait pas crainte pour sa fuite et qu'il peut à tout moment répondre aux invitations qui lui seront lancées pour la suite de l'instruction pré-juridictionnelle de son dossier. Rappelons que le président du MLP, Franck Diongo, a été enlevé et détenu depuis le 20 juin au cachot de la DEMIAP ici à Kinshasa. Il lui est reproché son implication dans une bagarre au quartier Grand Malik de Kinshasa entre les groupes dits Force de Progrès et Mongo. L'opposant politique Franck Diongo et son parti politique seraient impliqués dans cette rixe. Il est également accusé de port illégal d'armes. Accusation que ses avocats ont toujours rejetée en bloc, parlant d'un dossier vide. Justice encore, la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale CPI s'est réunie hier vendredi à La Haye aux Pays-Bas pour évaluer la responsabilité de Bosco Ntaganda aux fins de ses réparations de 31 millions de dollars américains en faveur des victimes. Explication avec vous, Jean-Pierre Elali Coco.
La Chambre a rendu également les conclusions sur l'estimation du nombre approximatif des victimes directes et indirectes des crimes contre les enfants soldats, estimés à environ 3000 personnes, tandis que l'estimation du nombre approximatif des victimes directes et indirectes des attaques est de 7500 personnes au total. Bosco Ntaganda a pris part à distance par liaison vidéo à cette audience. Pour rappel, le procès de Ntaganda s'est ouvert le 2 septembre 2015. Le 8 juillet 2019, la chambre de première instance 6 de la CPI a déclaré Bosco Ntaganda coupable des 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Ituri en RDC en 2002-2003. Le 7 novembre 2019, il a été condamné à une peine totale de 30 ans d'emprisonnement. La chambre de première instance a rendu une ordonnance de réparation le 8 mars 2021. Les verdicts et la peine ont été confirmés par la chambre d'appel le 30 mars 2021. La chambre de première instance a rendu une ordonnance de réparation le 8 mars 2021. Cette deuxième ordonnance est donc un ajout à la première ordonnance.
Merci Jean-Pierre Elali Coco pour ces précisions. Réagissant à cette ordonnance de la CPI, l'Association nationale des victimes du Congo déplore l'élasticité de la procédure de réparation. À Radio Okapi, Kinshasa, son président Myriam Moulumba a regretté que de nombreuses victimes éligibles à cette réparation individuelle sont déjà décédées. Il demande par conséquent à la CPI d'écourter le temps de traitement des dossiers des victimes de guerre et d'autres exactions commises en RDC. Il le dit à Blaise Ndongala Mayanda.
Cette ordonnance tombe à point nommé. Nous disons oui, nous disons non. Pourquoi ? Parce que nous avions dénombré, ensemble avec la Cour pénale internationale, plus de 2129 victimes des actes de barbarie perpétrés par la volonté de Bosco Ntaganda. Et à ce jour, plus de 500 victimes ont déjà tiré leur révérence. Est-ce serait opportune que cette ordonnance tombe? Nous disons oui, nous disons non. Pourquoi? Parce que la réparation doit absolument être bénéfique pour ceux-là qui ont subi directement ou indirectement le préjudice. Et si aujourd'hui nous avons enregistré plus de 500 victimes qui ont déjà tiré leur révérence, mais je me pose la question, cette réparation appartiendra à qui? Donc nous trouvons le chemin totalement élastique de la Cour pénale internationale quant au volet lié à la réparation, victimise encore plus davantage les victimes.
Notez que l'Association nationale des victimes du Congo dit avoir recensé au moins 2123 victimes dans l'affaire Bosco Ntaganda, reconnue coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Ituri entre 2002 et 2003. Autre nouvelle sur Radio Okapi au Nord Kivu, des violents affrontements ont eu lieu ce samedi matin entre les rebelles du M23 et les miliciens locaux dans la chefferie de Bwito, dans les groupements de Tongo et de Bukombo, territoire de Rutshuru. Selon des sources locales, depuis trois jours en effet, ces affrontements ont causé le déplacement de nombreux habitants de la zone. À Goma, Bernard Denyangui.
C'est depuis 3h du matin ce samedi que des tirs à l'arme lourde et légère sont entendus notamment dans les collines Kojo en groupement de Tongo et Kaimbe en groupement de Bukombo, signalent les sources locales. Selon ces sources, les miliciens locaux, entre autres l'Ignatura, qui s'appelle les Wazalendo, auraient répondu à une énième attaque des rebelles du M23 qui tenteraient de prendre le contrôle de nouvelles localités dans le groupement Bambo et Bukombo. Elles affirment que les FARDC déployés dans la zone seraient aussi intervenus pour repousser cette attaque. Cependant, cela n'est pas encore confirmé par nos sources militaires dans la région. Aucun bilan de ces affrontements qui se sont poursuivis toute la matinée ce samedi est encore disponible, disent nos sources. Elles précisent tout de même que cette zone est presque vidée de sa population qui a fui depuis quelques jours vers Tongo Centre, Bambo, en territoire de Rutshuru et les autres vers Mueso, en territoire de Masisi. Goma, Bernard Dengue.
On enchaîne avec le Maniema où l'ONG dénommée Solidarité Féminine a remis hier vendredi aux habitants du village de Ekepala deux grandes pirogues à rames dans le cadre de l'appui au développement des transports non polluants des marchandises dans la ville de Kindu et ses environs. Les donateurs veulent ainsi réduire sensiblement des émissions à effet de serre sur l'environnement. Pour en parler, retrouvons à Kindu Florence Kizalunga.
Le village Kepala est situé à au moins 15 km de Kindu en amont du fleuve Congo. La population cultivatrice de son état éprouve des difficultés pour acheminer les produits de ses champs vers le centre de consommation. La chef du village Atosha Mula Lofeza. Depuis que nous sommes à Kepala, on n'a jamais eu de pirogue. Nos produits vivriers, nous les transportons par des moteurs qui nous coûtent trop cher et on ne gagne rien. On rentre sans acheter même les selles. Aujourd'hui, nous remercions le projet de ces moments. Nous sommes contents car nous allons amener nos produits, le vendre avec intérêt. Le représentant du ministre provincial de l'Environnement a demandé aux bénéficiaires de ces pirogues de le mettre à la disposition de toute la communauté. Mbalouku n'est pas.
La remise que nous venons de faire officiellement ce jour, ça entre dans le cadre de la diminution et l'élimination des émissions de gaz à effet de serre. Ces pirogues pour les habitants qui habitent en amont du fleuve, ça peut leur aider d'évacuer leurs marchandises librement. C'était un besoin ressenti.
L'ONG Solidarité Féminine promet de faire la même chose pour d'autres villages pour faciliter les transports non polluants des produits vivriers vers les centres de consommation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Des enfants ghanéens ont été enlevés vendredi après-midi de chez eux dans le cadre d'une opération soutenue par l'une des organisations anti-esclavagistes au monde. L'organisation caritative de plusieurs millions de dollars, dénommée Justice Mission, vise notamment à sauver les enfants victimes de la traite et à les réunir au plus tôt avec leurs familles respectives. Mais des sérieuses préoccupations ont été soulevées au sujet notamment de leurs opérations en Afrique de l'Ouest. Et puis le chef d'une groupe de mercenaires Wagner, Evgeny Prigogine, a rejeté en bloc une offre à ses combattants de servir d'unité dans l'armée russe, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Il a indiqué que de nombreux commandants d'une groupe Wagner avaient soutenu le plan d'être dirigé par un haut responsable de Wagner lors des récents pourparlers qui se sont organisés à Moscou. Les pourparlers ont eu lieu quelques jours seulement après la mutinerie avortée de Wagner le 23 et le 24 juin dernier et qui a contesté l'autorité du président russe Vladimir Poutine.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur et défenseur des droits de l'homme à Walikale, dans la province du Nord Kivu. Maître Obedi Kamala affirme que la protection des libertés fondamentales s'est détériorée ces jours-ci dans cette partie du pays. Il s'entretient avec Denise Lukesu.
Maître Obedi Kamala, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment se présente la situation des droits de l'homme en ces premiers semestres de l'année dans les territoires de Walikale?
Depuis le début de cette année, malheureusement, nous déplorons parce qu'il y a eu détérioration de la situation liée aux libertés fondamentales, liées à la protection des droits de l'homme. Dans son histoire, dans le Walikale, nous n'avons jamais connu un nombre si important de pertes en vie humaine dans des milliers de carcérés. Nous n'avons jamais connu dans le Walikale de pertes en vie humaine par fusillade depuis le début de cette année. Les gens ont été fusillés par balles et ils ont perdu leur vie. En fait, nous déplorons pourquoi, parce que Walikale aujourd'hui, nous avions reculé. Dans le milieu carcéral, la prison de Walikale aujourd'hui, on a déjà perdu plus de 17 détenus. La protection humanitaire affiche ses faiblesses. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté parce que tout le monde a peur. Donc la vie de l'homme est en danger dans le Walikale, maintenant là. Mais aussi, il y a restriction à la liberté de circulation. Voilà, tous ces cas-là font à ce que Walikale recule.
Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui est à la base de ces morts en cascade de détenus?
Et quand nous parlons avec l'administration pénitentiaire, il n'y a qu'une seule cause. Tout ce monde a perdu leur vie parce qu'ils ont manqué des soins médicaux. Une maladie de malnutrition parce qu'il n'y a pas de vivre dans la prison. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas une structure sanitaire affectée dans cette prison. C'est pourquoi à Walikale, vous allez en prison, c'est soit la vie ou la mort. Ou alors vous priez votre ancêtre pour sauver votre vie. Au-delà même de déplorer les conditions inhumaines de la prison, il y a aussi un problème judiciaire. Depuis que le temps de siège a été installé dans ce territoire de Walikale, on n'a jamais connu aucune seule audience foraine du tribunal militaire de garnison de Goma pour aller juger les gens. Les gens sont dans la prison, ils n'ont jamais été écoutés. Ils ont passé 2 ans, 3 ans dans la prison, dans une situation de détention préventive. Et la personne meurt. Tous ces gens qui ont décédé, ils n'ont jamais connu l'essor de leur culpabilité. Voilà, nous déplorons aussi ce retard. Le tribunal militaire de garnison de Goma, aucune audience foraine. Alors les gens restent en prison, ils sont condensés là-bas. Alors on se demande, mon Dieu, c'est quoi ce monde judiciaire dans les Walikale? Voilà un peu, avec ce retard, avec cette faible de prise en charge en soins médicaux et en vivre dans la prison centrale de Walikale, fait à ce que chaque semaine maintenant, nous perdons une vie humaine dans la prison centrale de Walikale. C'est trop.
Pourquoi les audiences ne se tiennent pas?
Nous étions plusieurs fois en contact avec les autorités judiciaires, surtout militaires, parce que depuis qu'on avait instauré le temps de siège, à une certaine période, on avait transféré la compétence pénale aux juridictions militaires dans la province. Maintenant, on a aussi essayé de réduire pour que la compétence pénale soit aussi aux juridictions civiles. Mais depuis qu'on avait transféré, il y a des dossiers aujourd'hui qui ne peuvent pas être jugés à Walikale. Parce qu'à Walikale, il n'y a pas un tribunal militaire de garnison. Il y a un parquet détaché à Walikale. Le tribunal de paix de Walikale n'est pas compétent pour juger les infractions punissables au-delà de 5 ans. Et c'est l'auditorat détaché à Walikale qui transfère le dossier au tribunal militaire de garnison de Goma. C'est-à-dire que le tribunal militaire de garnison de Goma devrait quitter Goma pour arriver à Walikale, organiser des chambres foraines. Ceux qui sont coupables, on ne disconvient pas. Ils seront responsables de tous les actes délictueux qu'ils ont causés. Mais il y a aussi des innocents dans la prison. Mais le tribunal n'arrive pas toujours à organiser une chambre foraine, le tribunal militaire de garnison de Goma. Je précise bien. Nous étions en contact et nous disent que non, il n'y a pas de moyen de déplacer le tribunal de Goma jusqu'à Walikale. Il fallait maintenant que le gouverneur de province militaire puisse aussi prendre en charge cette composition.
Oui, vous parlez de la saturation de la prison. Aujourd'hui, la prison compte combien de détenus?
169 détenus. C'est une prison qui était construite pour uniquement 50 détenus. 80% de ces détenus sont dans une situation de détention préventive. Et ils ont déjà largement dépassé les délais de détention. Leurs dossiers sont devant le juge. Il y a une année, il y a deux ans, il y a trois ans. Voilà un peu ce que nous déplorons. Sur le plan humanitaire, il y a violation des droits d'accès à la justice, des droits à la défense d'une personne. Il fallait désengorger la prison.
Merci, Maître Obedi Kamala.
Je vous en prie.
C'était l'invité de Radio Okapi. Ce soir, le coordonnateur et défenseur des droits de l'homme dans les territoires de Walikale et au Nord Kivu, Maître Beni Kamala, a été interrogé à Goma par Denise Lukeso. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci à Noël Aluzitu Kabambi qui m'a accompagné.